biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpe Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Ecomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpe Mancel sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe Alpe Mancel. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpe Mancel.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de votre Bio Ecomag, les brèves de la semaine, suivies de la chanson « Ma solitude » de Higgits, puis d'une chronique spéciale fin d'année sur les jeux qui, eux aussi, ne font pas exception à la hausse des prix de l'inflation. Puis d'un extrait de « Poupée russe » de Luigi Pekka. Ce sera ensuite l'heure de votre chronique santé-alimentation avec comme sujet du jour les vitamines et plus précisément la vitamine B9. Suivi d'un extrait de « Si j'avais su » de Claudio Capeo, puis de votre chronique « Biodiversité » sur le réchauffement climatique et son impact sur la prolifération des virus jusqu'ici en dormance. Viendra la chanson de Vianney et Ed Sheeran « Call on me », puis notre interview avec Geoffroy De Villel de l'entreprise Isopie située à Chéréau. Ce sera alors la fin de votre magazine et le moment de se dire au revoir. Dans les brèves de cette semaine, une nation verte, Elisabeth Borne a présenté 22 chantiers relevant de la planification écologique dont elle est chargée pour conduire une transition plus juste mais complexe et faire de la France une nation verte. Ces chantiers vont de la rénovation des logements à la décarbonation des industries et s'articulent autour de 6 thématiques de vie quotidienne. Se déplacer, se loger, se nourrir, produire, consommer et préserver son écosystème. Ils se déclineront en plans d'action. Aide à l'achat des récupérateurs d'eau de pluie. Alors que la Sarthe sort lentement de l'état de sécheresse, le conseil départemental annonce une aide plafonnée à 30% du coût TTC pour l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie avec un plancher de 150 € et un plafond de 500 €. Il s'agit de préserver la ressource et réduire la facture d'eau des particuliers. Ça va chauffer pour la France. Le changement climatique en France pourrait être pire que prévu. Selon une étude, les températures dans l'Hexagone pourraient augmenter en 2100 de 3,8 degrés en moyenne par rapport au début du XXe siècle. Cela représente une hausse jusqu'à 50% plus élevée que les précédentes prévisions, indique l'un des auteurs de l'étude, Aurélien Ribs, climatologue au Centre National de Recherche Météorologique.
Un jour calme, probablement un dimanche, parler une dernière fois, et probablement parler de toi. Un jour sans drame, probablement au bord de l'eau, dire un dernier mot, et probablement dire qu'il fait beau. Mais chut, regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence. Regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence danse. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. L'écume clame, voici le temps de baisser les armes. Je ne cherche pas le bonheur, je suis à la recherche du calme. L'écume clame, voici le temps de baisser les armes. Je ne cherche pas le bonheur, je suis à la recherche du calme. Mais chut, Regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence. Chut, regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence danse. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. Se taire, faire le vide au-dedans. Un jour, il faudra faire comme le vent. Mais chute, regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, ma tendre promise. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. Ma solitude, ma chère et tendre amie, ma solitude, que tant d'autres fuient.
Dans votre chronique spéciale fin d'année, nous parlerons jouets. Jouets qui, eux aussi, ne font pas exception à la hausse des prix de l'inflation. Effectivement, on s'en doutait, mais c'est confirmé. Une étude de marché menée par NPD Group pour la Fédération Française des Industries Jouets Périculture et la Fédération des Commerces Spécialisés des Jouets et des Produits de l'Enfant, récemment publiée, révèle que l'inflation touchera également les jouets d'ici Noël. Mais la hausse des prix n'est pas la même pour tous. Alors quels sont ceux qui vont le plus augmenter? En moyenne, l'augmentation des prix des jouets pour Noël 2022 sera de 6 à 8%. Cité dans le rapport NPD Group, Frédéric Tut, experte jouet, constate que la hausse reste plus limitée qu'en Allemagne, où elle atteint 6,6%, ou en Grande-Bretagne avec 6,8%. De plus, l'inflation varierait selon les produits et leur provenance. Mais cette hausse de 6% n'est qu'une moyenne. Certains jouets seront plus affectés, d'autres moins. Les jouets fabriqués notamment en Asie subiront certainement l'augmentation la plus importante en raison des tarifs des conteneurs et de la parité euro-dollar défavorable aux importations. Il en sera de même pour les jouets qui contiennent des composants électroniques, notamment pour les jouets du premier âge soumis à une forte hausse des prix. Pour cette raison, les grosses peluches par exemple risquent d'être bien plus chères pour ce Noël avec des prix encaissant en moyenne 30% d'augmentation. À l'inverse, les prix des jouets produits en France et en Europe demeureront plus stables, à l'instar des Lego, avec une augmentation de 4%. Côté Barbie, les prix relevés sont aussi plutôt stables. Pour résumer, les jouets qui subiront moins la hausse des prix sont les jouets fabriqués en Europe, et notamment en France. De plus, la hausse des prix sera répercutée différemment selon les enseignes et les lieux de vente. Frédéric Tut, experte jouet pour NPD Group, constate que face à l'augmentation des dépenses énergétiques, les ménages ont déjà adopté de nombreux comportements de consommation et semblent avoir délaissé les achats d'impulsions et autres sèche-pleurs.
Elle dit que les médecins sont des menteurs, qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs, qui a raison, qui a tort. Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore. On ira voir la mer, quand c'est la mer. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Oh, on ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Thank you.
dans votre chronique Santé Alimentation. Aujourd'hui, nous parlerons vitamines et plus précisément de la vitamine B9. Outre sa prescription obligatoire à toutes les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, afin d'éviter que le fœtus ne développe une grave malformation du tube neural, la supplémentation en acide folique diminuerait le risque d'AVC et le risque de développer certains cancers. La vitamine B9, que l'on appelle aussi folate lorsqu'elle provient des aliments que l'on consomme et acide folique lorsqu'elle est apportée par des compléments alimentaires, est une vitamine indispensable au système immunitaire et au système nerveux central. Cette vitamine peut être apportée par la consommation d'abats, de légumes verts à feuilles, de légumineuses et aussi à travers certains fruits et fruits secs. Toutefois, il faut le savoir, c'est une vitamine très fragile qui disparaît à la cuisson et à la congélation. Sachez également qu'un excès d'acide folique par supplémentation peut entraîner des troubles neurologiques tels que des troubles du sommeil et d'irritabilité entre autres, ou des troubles digestifs tels que des crampes abdominales ou des diarrhées. Il est donc préférable de demander conseil à son médecin traitant ou à un professionnel de santé avant d'en consommer par supplémentation.
Dépêché de t'aimer comme l'on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi. Les mots faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots, à quoi ils servent? À part à décorer les tombes. Si j'avais su en partant ce soir-là,
dans votre chronique biodiversité, le réchauffement climatique pourrait provoquer un débordement viral depuis l'Arctique où des virus jusqu'ici préservés dans la glace pourraient entrer en contact avec de nouveaux hôtes dans d'autres environnements. Vous le savez, les virus ont besoin d'un hôte, qu'il soit humain, animal ou végétal, pour se multiplier. Et avec le réchauffement climatique qui s'accélère, des espèces seront amenées à migrer en se faisant potentiellement se croiser des virus et des espèces qui ne le devraient pas. Dans le cadre d'une étude, des chercheurs ont prélevé un échantillon du lit d'une rivière qui l'alimente lors de la fonte des glaces pendant l'été, ainsi que du fond de ce même lac. Ces échantillons ont ainsi été séquencés et analysés. Les analyses ont ainsi montré de grandes différences dans les arbres généalogiques des virus et de leurs hôtes dans les sédiments extraits du fond du lac. Ces différences étaient moins prononcées dans le lit de la rivière alimentant ce même lac. Les chercheurs supposent ainsi que l'eau de fonte des glaciers érode les sédiments du lit, limitant ainsi les interactions entre les virus et les hôtes potentiels. En revanche, l'accélération de la fonte des glaciers alimentant le lac a aussi accru la quantité de sédiments qui est transportée, mettant ainsi en contact des hôtes et des virus qui ne l'auraient pas été normalement. Selon les chercheurs, le risque pourrait s'accroître avec la poursuite du réchauffement climatique, car de nouveaux hôtes pourraient s'aventurer dans des régions auparavant inhospitalières pour eux. La possibilité d'un débordement est donc complètement imprévisible, ainsi que ses conséquences, allant d'un simple caractère bénin jusqu'à une vraie pandémie. Mais il est important d'en avoir pleinement conscience, notamment à travers nos actes du quotidien qui peuvent être soumis à amélioration afin de limiter notre impact sur la planète.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé.
Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me,
together.
It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a rightness, oh, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow.
Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. De tout ça,
je la sens la solitude sans toi.
De tout ça,
je la sens la solitude sans toi.
À présent, nous recevons sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM Monsieur Devillèle Geoffroy de la société Isopaille située sur la commune de Chéreau. Monsieur Villèle, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose de commencer cet échange en nous parlant de la société de construction Isopaille, créée en 2008 par votre oncle Damien Devillèle. À cette époque, pourquoi a-t-il souhaité créer cette société ?
Oui, tout à fait. La société a été créée en 2008 par Damien qui, suite à une prise de conscience écologique forte, il a souhaité en fait créer une entreprise de toutes parts qui puisse, dans sa mission quotidienne, participer en fait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc pour cela, il a choisi le secteur du BTP, puisque le BTP, c'est un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, près de 36%. C'est d'ailleurs un secteur qui consomme énormément d'énergie. En 2019, par exemple, c'était près de 46% de l'énergie qu'on consommait qui était liée au BTP. Donc l'idée, c'était de créer une entreprise dans ce secteur qui ferait les choses différemment pour pouvoir diminuer considérablement l'impact carbone de ce secteur et donc de la France. Donc comment est-ce qu'on décarbone le BTP ? Il y a deux leviers principaux. Le premier, c'est l'énergie que les bâtiments vont consommer durant leur vie, donc chauffage, électricité, climatisation, etc. Et le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est l'énergie qu'on va dépenser lors de la construction de ces bâtiments, qui est principalement liée en fait à l'énergie que consomment, que demandent les matériaux qu'on va mettre en œuvre. Donc l'offre d'Isopaille, c'était justement de combiner ces deux leviers pour faire quelque chose de complet qui s'attaque à la fois à la construction et à la vie du bâtiment. Et donc pour ça, on a une offre qui est assez simple. Déjà, on ne construit que des bâtiments qui sont dits passifs ou proches du passif, donc en fait à très haute performance thermique. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui va consommer moins de 15 kWh d'énergie par mètre carré et par an pour se chauffer ou se climatiser. Pour remettre ça un peu dans un ordre de grandeur, 15 kWh, c'est 15 fois inférieur environ à la moyenne française, 20 fois d'ailleurs même, qui est de 288 kWh par mètre carré par an. Donc en fait, c'est des bâtiments qui vont, sans énergie, pouvoir se maintenir entre 22-23 degrés toute l'année. Concrètement, c'est des bâtiments qui n'ont pas de radiateur, pas de chauffage, et pour autant, il fait bon à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà la première mission, c'était créer uniquement des bâtiments à haute performance thermique. Et le deuxième défi, c'était de créer des bâtiments qui soient comme cela, mais en utilisant que des matériaux avec un faible impact carbone, donc peu transformés, qui demandent peu d'énergie pour être créés, Et donc, à savoir, on va se passer tout ce qui est béton et acier pour le remplacer, par exemple, par du bois pour la structure. Et pour l'isolation, qui est généralement faite en laine de roche, laine de verre, on va utiliser des matériaux biosourcés comme la paille. Donc voilà, ça c'est l'offre d'Isopaille, c'est créer des bâtiments avec des matériaux biosourcés qui soient très performants sur le plan thermique.
Et pourquoi avoir choisi la paille et pas un autre isolant ?
Il y avait en effet plusieurs matériaux biosourcés qui auraient pu remplir le rôle pour remplacer la laine de verre ou la laine de roche. La paille, elle combine beaucoup d'avantages parmi les matériaux biosourcés. Donc nous, on pense que c'est le meilleur. En fait, elle a pas mal d'avantages, notamment donc de par sa disponibilité sur le territoire. La paille aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un sous-produit, c'est un déchet de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va chaque année évidemment cultiver du blé pour se nourrir, et en fait, on va avoir dans les bras énormément de paille qui aujourd'hui ne sert à rien. Uniquement 5% de la paille sur le territoire français aujourd'hui est utilisée. Elle sert principalement de litière pour l'élevage. Mais tout le reste, eh ben en fait, on va juste soit le brûler, soit le laisser se biodégrader. Elle ne sert à rien. Et en fait, cette matière-là, elle a un intérêt, puisque c'est un très bon isolant, puisque elle est facilement maniable. Dans le BDP, la maniabilité d'un produit, en fait, c'est son coût. Plus il est facile de le mettre en œuvre, mieux c'est. Donc on n'a pas besoin de machine pour l'insuffler. Il suffit de porter la paille à la main et de l'insérer dans les murs. De part aussi de sa nature, la paille, c'est un tube qui capture de l'air, et donc en fait c'est naturellement un bon isolant thermique, puisqu'il faut un minimum d'air pour bien isoler. Il y a d'autres avantages après sur la qualité de l'air, puisque à l'instar d'autres matériaux biosourcés qu'on doit traiter pour devenir inifugés comme la boîte de cellulose, la paille, elle, on la transforme pas, on va juste la décompacter et la recompacter. La paille qui est dans les champs à la fin de la moisson, c'est littéralement la paille qui est dans les murs dans la construction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Il y a une proximité aussi. La paille est présente sur tout le territoire français. Et enfin, il y a une question de coût. De par sa disponibilité à grande échelle, comme je vous expliquais, en fait, il y a un coût qui est évidemment très faible, puisque facilement récupérable partout. Donc c'est pour ça que la paille semblait évidente et que c'est aujourd'hui un matériau qui en plus n'a pas d'effet de rebond. On n'est pas en train de cultiver du blé juste pour la paille, on n'est pas en train de déforester pour produire plus de paille. Il suffit d'utiliser la ressource qui est disponible et qui est déjà présente.
Et comment utilisez-vous la paille dans le BTP ?
Alors, on la récupère justement, alors c'est ça qui est intéressant, on la récupère au format agricole moderne, donc les bottes de paille que vous voyez dans les champs autour de vous, en fait on va récupérer ça avec un agriculteur qui nous le livre chez nous, et nous on a créé une machine qui permet justement de décompacter cette botte de paille, puisqu'en fait les machines industrielles, enfin agricoles modernes, vont la compacter à près de 200 kg du mètre cube, ce qui est trop en fait, qui fait une paille trop dense avec pas assez d'air pour jouer le rôle d'isolant. Et donc nous, on va simplement la décompacter et la recompacter pour être à un niveau de performance thermique parfait. Donc on va la compacter à environ 80 kg du mètre cube et on va la ressortir en plus petites bottes qui sont manuportables. On fait des bottes d'une certaine dimension qui nous intéressent, qui vont pouvoir rentrer pile poil dans l'anthrax. Donc là, c'est un peu un terme technique, mais en gros, qui vont rentrer entre les montants de nos murs sans forcer. Et donc l'utilisation est facile, on comble l'espace avec les bottes de paille et on referme notre mur.
Et n'avez-vous pas de crainte quant à la durée de vie des matériaux utilisés ?
Là, il y a plusieurs exemples qui ont été faits en termes de longévité, en termes de résistance au feu. Donc aujourd'hui, les plus vieilles maisons paille du monde, elles se situent aux États-Unis, dans le Nebraska. Et donc là, on a des maisons qui ont près de 200 ans. Avec de la paille qui donc tant qu'elle est hors de l'eau, hors de l'humidité, ne se biodégrade pas, donc elle reste dans sa forme comme on la connaît, jaune et sèche. La plus vieille maison d'Europe en structure bois isolation paille, donc le même système qu'isopaille, elle a en fait 102 ans cette année, puisqu'elle a été créée en 1920 par Émile Feuillet, qui justement voulait montrer qu'on pouvait construire des maisons après la Première Guerre mondiale avec des ressources qu'on trouve partout en France. Et donc, elle est située à Montargis et elle n'a pas bougé et elle est toujours aussi bien isolée.
Et de manière très concrète, comment proposez-vous vos prestations ?
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est charpentier. Donc, on travaille sur tout ce qu'on appelle le clos couvert. Donc, on va venir livrer toute l'enveloppe structurelle de la maison avec les menuiseries incluses, les menuiseries extérieures. Donc, quand on livre la maison, en fait, une fois qu'on quitte le chantier, la maison est déjà ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air, et le second œuvre peut travailler. Donc, tout ce qui est plomberie, électricité à l'intérieur peut être fait. Et en extérieur, il faut s'attaquer à la couverture en elle-même du toit et à l'habillage des façades. Il faut savoir que nous, on travaille uniquement en atelier, enfin principalement en atelier. Donc, en fait, on a un atelier donc situé sur Chéréau, dans lequel on va travailler ce qu'on appelle de la fabrication hors site. C'est-à-dire qu'on crée des caissons de murs, des caissons de toiture, des caissons de plancher, tous isolés, donc pareil, en paille et avec une structure en bois. Et une fois qu'on a l'ensemble des caissons qui constituent un bâtiment, tout ça monte sur transporteur et livré sur site. Et à l'aide d'une grue, on va pouvoir ce qu'on appelle lever la maison, lever le bâtiment. Et donc, en fait, on a des phases de chantier qui sont assez restreintes, assez réduites, donc des nuisances qui sont réduites et des coûts qui sont bien plus maîtrisés. Le choix de la construction hors site, il a été fait, il a été guidé en fait par la paille, puisque la paille, elle a pas mal d'avantages, comme j'expliquais, mais elle a un inconvénient, c'est un ennemi, c'est l'humidité. Il ne faut pas que la paille rentre dans un processus de dégradation par voie humide, donc il était important de pouvoir travailler toute l'année à l'abri de l'humidité, et donc c'est pour ça qu'on travaille en atelier. C'est intéressant puisqu'en fait aujourd'hui c'est, on va dire, c'est un peu le BTP moderne. Aujourd'hui même certains maçons travaillent en atelier avec des murs préfabriqués et donc il y a beaucoup d'avantages, comme je le disais, sur la phase de chantier qui est réduite, les allers-retours qui sont réduits, la nuisance pour le voisinage qui est réduite et une maîtrise de ce qu'on fait puisqu'on travaille en atelier avec des outils qui sont, on va dire, sédentaires et donc forcément tout ce dont on a besoin.
Votre oncle a été assez avant-gardiste, si je puis dire, pour l'époque. Comment est-il arrivé à ce concept ?
Oui, c'est vrai qu'il a été assez avant-gardiste, donc guidé, comme je disais, par cette prise de conscience écologique. Pour en arriver à ce concept, il est d'abord passé, c'est assez marrant, par, il voulait optimiser un système de chauffage. Donc il voulait créer la chaudière parfaite, la chaudière qui consommerait le moins d'énergie par rapport à l'apport de calories qu'elle pourrait apporter dans le bâtiment. Et pour ça, il est parti en Allemagne. Et en fait, en Allemagne, il a rencontré justement le Passive House Institute, l'organisme qui décrète qu'un bâtiment, qui calcule qu'un bâtiment est passif, qu'un bâtiment dépense vraiment très peu d'énergie. Et leur maxime à eux, c'est chauffer un bâtiment, c'est en fait pallier un défaut de conception ad vitam aeternam. Donc c'est vraiment la preuve que, en fait, on peut se passer de système de chauffage tant que on prend soin de l'isolation de la maison dès la conception. Et donc là-dessus, il a abandonné son idée de chaudière pour, en fait, justement, proposer des bâtiments passifs. Et lui, il a rajouté, pour aller jusqu'au bout, l'idée de créer des bâtiments passifs, mais en plus avec des matériaux qui sont eux-mêmes décarbonés. Puisqu'on pourrait très bien construire un bâtiment passif avec des isolants transformés, très coûteux en énergie, sans être de chaussée.
Et dans ce projet, s'est-il lancé seul ou a-t-il eu des partenaires ?
Il a surtout dû développer dans les premières années un avis technique. C'était un travail de recherche, c'est un travail plus sur la théorie pour convaincre le centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. Donc ça s'est fait étape par étape avec différentes phases. Il n'y a pas eu un atelier dès le début, mais on a eu un atelier dès 2013.
Là, aujourd'hui, je me doute qu'avec la réelle prise de conscience écologique qu'on connaît aujourd'hui, et notamment liée à la situation sanitaire et économique, vous êtes plutôt bien accueillis.
Oui, alors il y a eu, en effet, avant-gardiste, il y a eu quand même des périodes assez pas compliquées, mais il y avait un marché qui n'était pas encore existant, donc il fallait convaincre. Au début, initialement, les clients étaient seulement des personnes qui avaient également une prise de conscience écologique forte. Et aujourd'hui, on a des personnes qui cherchent du confort haut de gamme, donc une maison où il fait bon vivre, avec un confort acoustique intéressant. On a également des clients maintenant qui ne sont pas forcément les plus fortunés, mais qui font le calcul. Ils se disent, je préfère investir un peu plus à la construction et me prémunir de charges de chauffage qui vont probablement augmenter, enfin qui augmentent déjà et qui vont sûrement continuer à augmenter. Il y a également eu un engouement, comme vous le dites, avec la crise sanitaire, de personnes qui quittent les villes pour avoir une maison individuelle et donc construire du neuf. Et donc ça nous bénéficie. Voilà, il y a vraiment plusieurs facteurs qui créent une conjoncture très favorable, qui s'est installée maintenant, qu'on a commencé à voir il y a 2 ans, et qui la demande là est confirmée et très pérenne. On est ravis, on a vraiment énormément de demandes sur un produit qui est très pertinent pour son époque.
Donc des prestations qui s'adressent à tous, finalement, tout budget.
On est quand même un petit peu plus cher qu'une maison par pain mal isolée, entre guillemets, sans vouloir... si on compare à performance thermique égale, on est un peu plus cher. Mais dès 10 ans, j'ai envie de dire même, on comble le retard qu'on peut avoir. On est environ 10% plus cher sur les murs qu'on crée par rapport à du parpaing. Et à performance thermique égale, donc avec quelqu'un qui ferait la même chose que nous, mais sur des matériaux pas forcément biosourcés, on est moins cher.
Aujourd'hui, la société a gagné en expérience et s'est agrandie. Quel objectif vous donnez-vous et quel projet pour l'avenir ?
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup grandi ces dernières années, ces derniers mois. On est passé de 8 personnes il y a un an et demi à maintenant 17 personnes. Donc, on continue à grossir, on continue à essayer de livrer tous nos clients et à répondre à la grosse demande pour justement montrer la crédibilité de ce marché en construction bois et de la champagne. Donc on recherche toujours du monde. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si jamais vous êtes près de la Ferté-Bernard et que vous recherchez un poste en tant que charpentier menuisier, on sera ravis de vous rencontrer et de vous recevoir. Et sinon, au-delà de ça, au-delà des recrutements pour l'atelier présent, le but c'est à terme, j'espère rapidement, de pouvoir ouvrir un deuxième, voire un troisième atelier et mailler de manière plus efficace la France pour pouvoir proposer ce type d'habitation vraiment à tout le monde.
Et vous personnellement, pourquoi avoir intégré la société de votre oncle? Parce que je crois que vous êtes arrivé il y a peu de temps.
Alors moi je suis arrivé il y a un peu moins de 2 ans en effet. Ce qui m'a guidé, je pense que c'est pas mal le cas autour de moi et dans la tranche d'âge, donc autour de la trentaine, c'était intégrer une entreprise qui a une mission qui me plaise. Et donc là c'était une mission en l'occurrence environnementale. La chance d'Isopay, c'est d'avoir cette mission qui est forte et en plus tout un côté technique via justement l'intégration de la paille dans le BTP et après évidemment la construction, tout cet art de la structure bois qui est très séduisant. Donc moi j'ai voulu intégrer justement l'entreprise dans le but de la développer et c'était plus un défi dans ce sens-là, en recherche de sens et avec une entreprise qui est un savoir-faire technique.
Un défi que vous semblez relever en tout cas haut la main.
Il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est très positif. On a de la chance, entre guillemets, justement, j'ai de la chance surtout d'intégrer l'entreprise au moment où elle rencontre son marché. Je pense que dans les années 2010, c'était plus compliqué et il y avait moins de demandes. Là, maintenant, c'est vraiment, on est pertinent par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est super intéressant et c'est vrai que c'est très encourageant.
Vous avez sans doute aussi une équipe motivée et qui a envie de défendre ce que la société défend aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, j'étais moi-même assez surpris parce que tout le monde est très impliqué à tous les étages et surtout tout le monde, même si on n'est pas forcément dans des milieux très fortement écologiques, tout le monde est conscient de ce qu'il fait et qu'on construit différemment. D'ailleurs, j'en profite pour remercier peut-être l'atelier qui travaille donc de manière, comme je disais, sédentaire à la Ferté, à chez Réo, et qui n'est pas forcément souvent sous le feu des projecteurs, puisque rarement sur chantier, là où la maison se monte de manière assez magique en quelques jours. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui travaillent dans l'atelier. Yves, Thibault, Sullivan, Flo, Mathias, Jérôme, Ben et Didier qui chapeautent tout ce monde-là. Merci à eux, c'est un peu le travailleur, pas de l'ombre, mais qui ne voit pas forcément toujours les chantiers, donc bravo à eux.
Avant de nous quitter, un dernier mot pour nos auditeurs?
Mais écoutez, je les remercie et si jamais certains sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, autant pour des maisons que, comme je disais, pour le recrutement. Je vais peut-être donner mes coordonnées si je peux.
Oui, tout à fait.
Alors, vous pouvez nous contacter sur mon numéro de téléphone direct, donc 06 49 12 49 13. Voilà, n'hésitez pas, on sera ravis d'échanger avec vous, avec plaisir.
Monsieur De Villèle, je vous remercie pour votre intervention sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles et je vous souhaite une bonne continuation et encore félicitations à votre oncle pour cette belle entreprise et pour ses engagements.
Merci beaucoup, je transmettrai. C'est un plaisir d'être invité chez Radio Alpes-Mancelles et j'espère à bientôt et une prochaine fois.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.
Et voilà, nous arrivons à la fin de votre BioEcomag, votre magazine d'information sur les différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire. Retrouvez-nous sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet ou contactez-nous au 02 43 33 15 15, 02 43 33 15 15. Et bien sûr, continuez d'écouter Radio Alpes-Mancelles au 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe, Alpes-Mancelles. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans votre BioEcomag.